Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Lemay.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Appel sur l'actualité lance le débat jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, nous parlerons des universités. Très régulièrement, des mouvements de colère éclatent sur les campus avec des manifestations, des grèves. Le spectre d'une année blanche flotte très souvent autour des établissements de l'enseignement supérieur. On assiste même parfois à des violences, comme à Dakar, où depuis 10 mois, les étudiants protestent contre les conditions d'enseignement, la hausse des frais, le non-versement de bourses, etc. Des affrontements avec la police ont fait un mort jeudi dernier. Que pensez-vous de cette situation? Dans quelles conditions étudiez-vous? Quelles solutions? Nous lançons le débat au 33 9 693 693 70 ou 09 693 2 fois 70 si vous appelez de France. N'oubliez pas notre email appelaupluriel.actu@rfi.fr ainsi que nos comptes Facebook et Twitter. Ça réagit beaucoup sur ce sujet ce matin. Mais avant de lancer le débat, comme chaque jour, vos questions aux journalistes de RFI pour mieux comprendre et mieux décrypter l'actualité. Un premier auditeur en ligne, Sony, bonjour.
Bonjour RFI, bonjour à tous. Je suis Sony Moussafa depuis Monedito.
Voilà, vous êtes à Monedito, Kassai Oriental, et vous vouliez parler, poser des questions au sujet de la situation en Libye.
Oui, effectivement. Je voudrais savoir si la situation qui s'est vue en Libye ces derniers jours, les combats sont signalés autour de l'aéroport de Tripoli. Alors, qui sont membres de ces milices rivales qui s'affrontent en Libye? Et à qui prêtent-ils allégeance? Quels sont leurs objectifs et leurs revendications? C'est ça ma préoccupation.
Voilà. Pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Marine Casalis, notre correspondante dans la région. Bonjour Marine.
Bonjour Sébastien.
Alors c'est vrai que la Libye est en proie à des combats meurtriers entre milices rivales depuis la mi-juillet, notamment à Tripoli. On a l'impression que le pays est un peu devenu aujourd'hui comme une espèce de nid de guêpe. Marine, expliquez-nous un peu qui sont ces milices pour qu'on y voit un peu plus clair.
Alors, il faut savoir que les milices qui se battent à Tripoli appartiennent à celles qui tiennent l'opération du général Haftar. Donc c'est armé contre les islamistes, donc toutes les milices sont des milices anti-islamistes, et de l'autre côté vous avez les milices anti-islamistes, Donc au sein des milices anti-islamistes, elles sont plutôt issues des villes de Zintan, dans les montagnes de l'Ouest, mais on compte aussi certaines brigades de Tripoli et surtout des milices de tribus considérées comme proches de Kadhafi ou favorisées par son régime. Cela ne veut pas dire qu'elles souhaitent toutes le retour de l'ancien régime, justement. Celles de Zintan, par exemple, sont connues pour s'être battues contre les troupes de Kadhafi, mais cela veut dire qu'elles ont pour adversaires communs les islamistes. De l'autre côté, donc, leurs rivales, les milices islamistes, elles regroupent une alliance de milices de plusieurs villes, au premier rang desquelles la ville côtière et commerciale de Mitrata, mais aussi les villes de Gariane, Zawiya, etc. Mais il faut faire attention, avant de parler de lutte idéologique, il faut savoir qu'il s'agit surtout d'un combat pour le pouvoir, le contrôle des trafics, du pétrole et des armes. Ce sont plutôt de grands groupes mafieux qui s'affrontent dans la capitale. Et pour comprendre la Libye, il faut bien voir qu'il y a plusieurs calques de lecture qui se superposent et qui sont tous à prendre en compte. Un calque tribal, mais aussi un local, idéologique et enfin une opposition entre des vestiges de l'ancien régime d'un côté et ceux qui réclament être les vrais révolutionnaires de l'autre. Tous justifient leur action en fait en disant qu'ils s'opposent à des résidus de l'ancien régime.
Alors la seconde question de Sony était: quels sont les objectifs, les revendications de ces milices? Qu'est-ce qu'elles cherchent? Qu'est-ce qu'elles veulent?
Alors, pour les milices de Tripoli, donc qui s'affrontent depuis maintenant plusieurs semaines, principalement autour de l'aéroport, le but au départ était pour les milices de Misrata de déloger celles de Zintan qui contrôlent l'aéroport depuis la fin de la révolution. Donc leurs objectifs, deux, sont de s'emparer de points stratégiques et de défaire leurs adversaires, mais il n'y a pas vraiment de revendication idéologique, en tout cas pas clairement annoncée. Donc à Tripoli, pour les milices de Misrata, c'était de s'emparer de l'aéroport l'aéroport, mais on voit maintenant, après plusieurs semaines de combat, leur objectif semble en fait être devenu de détruire l'aéroport, puisqu'ils n'arrivent pas à le prendre aux Intani. Les combats se sont d'ailleurs déplacés dans d'autres quartiers, notamment dans le centre-ville. Et bien, les milices de Misrata accusent celles de Zintan d'être des réminiscences de l'ancien régime. Donc le porte-parole, par exemple, de leur opération me disait qu'il ne partirait pas de la capitale tant que toutes les milices de Zintan n'auraient pas quitté Tripoli et tant qu'elles n'auraient pas rendu les points stratégiques qu'elles contrôlent. Mais il n'y a pas vraiment d'objectif précis, si ce n'est la destruction vraiment du camp adverse. En revanche, du côté du général Khalifa Haftar, qui a lancé cette opération d'unité en mai, là, il y a un objectif logique, il l'a annoncé, il veut débarrasser la Libye des extrémistes. Pourtant, là non plus, ce n'est pas très clair, puisqu'il n'a pas fait de distinction entre les islamistes politiques, les milices islamistes et les groupes djihadistes, par exemple. Donc, il met tous les islamistes dans le même panier. Chacun des groupes, en tout cas, estime être de vrais révolutionnaires et s'accuse mutuellement ou bien d'être des partisans de l'ancien régime ou bien d'être des extrémistes. Il faut savoir que ces deux camps sont composés de groupes unis par des alliances de circonstances. Par exemple, au sein de l'opération d'unité, donc celle du général Khalifa Haftar, les milices de Zintan à l'ouest, les forces spéciales ou encore une partie de l'armée, tous ces groupes qui ont prêté allégeance à l'opération de Haftar ne sont en fait unis dans leur combat que par une alliance de circonstances et un combat contre les islamistes.
Bah d'ailleurs, ce sont les forces de Khalifa Haftar qui ont affirmé que c'était leurs avions qui avaient bombardé hier des positions des milices de Misrata, notamment près d'un pont stratégique à proximité de l'aéroport de Tripoli. Merci Marine pour toutes ces précisions, pour y voir un peu plus clair sur l'état de ces groupes armés. Restez en ligne parce qu'on a beaucoup de questions encore sur la Libye. On salue Sony qui nous écoutait depuis la République démocratique du Congo. 33 9 693 693 70. Nouvel auditeur en ligne, c'est Ismaël. Bonjour Ismaël.
Ouais, bonjour.
Bonjour Sébastien. Vous êtes à Conakry en Guinée et vous aussi, vous avez des questions sur la Libye. On vous écoute.
Ok, j'ai appris sur les ondes des RFI que l'Assemblée nationale libyenne a adressé une lettre au secrétaire général des Nations Unies en demandant une intervention militaire rapide en Libye. Concernant ce sujet, j'ai deux questions. La première, c'est de savoir quelle sera la réponse probable à cette demande et savoir quels sont les pays qui pourraient participer à cette opération.
Pour vous répondre, toujours Marine Casalis qui est en ligne avec nous. Effectivement, c'était le 13 août dernier, le Parlement libyen s'est prononcé à la majorité en faveur d'une intervention de la communauté internationale, officiellement dans le but de protéger les civils. Marine, est-ce que cet appel a été entendu ou pourrait être entendu ? Marine Casalis ? Ah, la ligne a coupé avec Marine Casalis. On va peut-être essayer de la joindre tout de suite pour pouvoir répondre à Ismaël. Vous restez avec nous de toute façon dans la deuxième partie du débat. Ce sera le système universitaire, notamment en Afrique, avec ses mouvements de colère, ses manifestations, ses grèves et ses violences qui touchent régulièrement les campus. Toujours chaque année, les mêmes accusations, manque de moyens. Est-ce qu'on a Marine Casalis en ligne ? Non, on n'a pas Marine Casalis. Bon, on l'a perdu définitivement. Eh ben, désolé Ismaël, on essaiera de vous répondre plus tard. On va passer à la question suivante. 33 9 693 693 70 pour nous joindre. 09 693 2 x 72 si vous appelez de France. Notre adresse email, je la rappelle, chaque jour, appel@actu.rfi.fr. Nous avons finalement Marine Casalis. Quel soulagement, voilà, ce sont les aléas du direct. Marine, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis avec vous.
Voilà, donc la question d'Ismaël était la suivante. C'était cet appel à une intervention de la communauté internationale de la part du Parlement libyen. Est-ce que cet appel pourrait être entendu ?
Alors, pour le moment, aucun pays n'a annoncé officiellement qu'il était prêt à s'engager. La mission des Nations Unies en Libye a estimé que c'était une décision qui revenait au Conseil de sécurité et elle, de son côté, elle poursuit ses efforts en vue d'un cessez-le-feu. La Tunisie a rejeté, elle, toute intervention en Libye. Dans les médias libyens et égyptiens, on parle d'une éventuelle intervention de l'Égypte, mais il n'y a eu aucune confirmation. Pour le moment, ce scénario s'inscrit toutefois, il faut bien le prendre en considération, dans un contexte régional tendu entre les islamistes et leurs adversaires. faire, en particulier en Égypte, où la violente répression contre les frères musulmans a eu un impact important en Libye. Une éventuelle intervention internationale est pour le moment assez peu probable, même si elle est de plus en plus évoquée. En tout cas, il faudrait qu'elle puisse répondre aux questions suivantes. Quel pays serait prêt à intervenir en Libye ou à y intervenir à nouveau? Et surtout, pour soutenir qui? Aucun des camps n'est plus légitime qu'un autre, puisque tous ont eu et continuent d'avoir recours à la force pour défendre leurs intérêts. N'oublions pas non plus que la plupart des milices qui se battent aujourd'hui pour le contrôle de l'aéroport, par exemple, sont des milices qui ont été payées ou sont encore payées par les autorités libyennes et qui dépendent de l'autorité du ministère de l'Intérieur ou de la Défense. Donc, quel groupe est plus légitime qu'un autre? Parler de coopération renforcée aux frontières en ce qui concerne les pays voisins, oui. Pour les pays occidentaux, parler de formation de l'armée et de la police, oui. Mais parler d'une intervention internationale, il n'en est pas vraiment question pour le moment. Vous le disiez tout à l'heure, il y a eu des bombardements lundi matin sur Syrie. Par exemple, après ce bombardement par des avions dont l'identité est restée inconnue pendant de longues heures, la France, l'Italie et les Nations Unies ont dû nier toute implication face aux rumeurs qui couraient. Donc pour le moment, en Libye, une intervention et n'est pas encore annoncé, je veux dire, mais pour certains, eh bien sur place, une intervention ciblée serait le seul moyen de sortir de la crise.
Ismaël, vous aviez encore une question pour Marine.
Oui, oui, dans ce cas-là, quelle sera ou quelle est la solution politique possible pour sauver ce pays du chaos?
Alors, dans le cas où il y aurait une intervention, l'intervention étrangère elle serait exclue, quelle solution politique pour la Libye, Marine? Qu'est-ce qui peut se passer?
Eh bien, c'est très difficile à dire. Les solutions sont difficiles à envisager. Pour le moment, les Nations Unies préconisent à court terme un cessez-le-feu. C'est ce qu'elles essayent de négocier, notamment à Tripoli depuis plusieurs semaines, entre les milices rivales qui se battent à Tripoli. Mais elles essaient aussi d'inclure les conflits qui se déroule à l'Est, à Benghazi, dans ce cessez-le-feu. À moyen et long terme, la mission des Nations Unies préconise un dialogue national, mais depuis le début, toutes les tentatives de dialogue national ont échoué. Il faut savoir que le jour même où le Parlement votait en faveur d'une intervention d'urgence de la part des Nations Unies, il votait aussi pour la dissolution des milices. Alors jusqu'à présent, ce type de mesure a échoué, et on voit mal comment un Parlement situé à plus de 1000 km de la capitale, justement pour des raisons de sécurité, puisse faire autorité sur le terrain, mais certains y voient tout de même un signe positif. Si les milices arrêtaient d'être payées par les autorités libyennes, ce serait déjà un grand pas en avant, nous confie un journaliste libyen. Pour le moment, toutefois, difficile de voir une solution au chaos libyen. Plusieurs Libyens me confiaient quand même que c'était pour eux une bonne chose, malgré les difficultés qu'ils traversent en ce moment, que c'était une bonne chose que ces affrontements aient lieu, qu'il fallait, bien comme ils le disent, que cela éclate pour pouvoir commencer à reconstruire.
Merci Marine Casalis en direct dans Appel sur l'actualité. Merci pour vos questions Ismaël à Conakry, en Guinée. On s'excuse pour la qualité de la ligne, c'est les aléas du direct, ça arrive. On peut pas avoir une qualité parfaite tout le temps, mais on finit toujours par s'en sortir grâce à nos techniciens. Merci beaucoup. 39 693 693 70 09 693 2 x 70 pour nous appeler de France. Nous sommes en ligne avec Akpadji. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes à Séoué, c'est à 100 km au nord de Cotonou, au Bénin, et vous aviez des questions concernant l'Iran. On écoute votre première question.
Voilà, merci monsieur. Oui, je voudrais savoir qui sont les ultra-conservateurs qui s'opposent à la négociation entre l'Iran et les Occidentaux. Et pourquoi ils les opposent-ils à cette négociation? Pourrait-il parvenir à bloquer les négociations en cours actuellement?
Alors, pour vous répondre, Nicolas Falaise est avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sébastien, bonjour Akpadji, bonjour à tous.
Alors effectivement, les négociations ont repris un début juillet à Vienne entre l'Iran et le groupe, ce qu'on appelle le groupe 5+1, c'est-à-dire États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, et Allemagne, pour au sujet du programme nucléaire iranien et des sanctions internationales. Elles doivent reprendre en septembre et durer jusqu'au 24 novembre. Des négociations qui ne font pas forcément l'unanimité. Hein. La méthode Hassan Rouhani ne passe pas forcément du côté des ultra-conservateurs. Qui sont-ils déjà? Qui sont ces gens qui s'opposent à ces négociations?
On se souvient qu'avant Hassan Rouhani, il y a eu Mahmoud Ahmadinejad, un ultra-conservateur dont la présidence, pendant deux mandats, de 2005 à 2013, a été marquée par la confrontation avec l'Occident et principalement, d'ailleurs, sur ce dossier du nucléaire iranien. Alors, l'élection de Hassan Rouhani l'année dernière, un modéré, en tout cas, il est décrit ainsi, a ouvert une nouvelle phase de recherche de compromis, de négociation donc avec les pays que vous venez de citer. Mais il y a toujours en Iran aujourd'hui un fort courant qu'on qualifie de conservateur ou ultra-conservateur. Il est présent au sein du Parlement, il est même majoritaire au Parlement. Hein. Le président Rouhani est en situation de cohabitation, un courant conservateur dur que l'on trouve aussi au sein de certains groupes, certaines institutions iraniennes, par exemple les fameux gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique. Alors ce sont eux, aujourd'hui, qui dénoncent la politique de Hassan Rouhani, estimant que ce dernier fait trop de concessions aux Occidentaux. Aujourd'hui, rien n'indique que ce courant conservateur soit en mesure de bloquer, de paralyser le chapitre de négociation qui est en cours. Mais on voit que le débat est vif. Il est d'autant plus vif que le contexte est celui que vous venez de rappeler, Sébastien. Il y a eu un accord intérimaire l'automne dernier à Genève. Et il s'agit maintenant de parvenir à un accord définitif qui permettrait à l'Occident d'être rassuré sur les intentions de l'Iran concernant son programme nucléaire, et qui permettrait à la République islamique de voir la levée de l'ensemble, de la totalité des sanctions internationales.
Akpadji, vous aviez une deuxième question.
Exactement, monsieur. La deuxième question est, au-delà des députés et des électeurs ultra-conservateurs, le président Rouhani ne risque pas de mettre à dos ses propres populations ou ses propres électeurs?
Et effectivement, c'est une question. S'il se rapproche trop des Occidentaux, ça pourrait être problématique. On l'accuse, les ultra-conservateurs l'accusent de faiblesse, hein, trop de concessions, vous l'avez dit. Est-ce qu'il pourrait être lâché ou mis en difficulté dans son propre camp?
Alors, pour répondre à ça, il faut se souvenir que Hassan Rouhani a été élu président en juin 2013 sur un programme très très clair, celui de la levée des sanctions, hein, qui pèsent très lourdement sur l'économie et la population du pays. Hein. Par exemple, la semaine dernière, le président Rouhani a reconnu une inflation de 35% dans son pays. La croissance est négative. Alors, il se dit sérieux et déterminé à faire aboutir les négociations avec le groupe des 6, les 5+1 sur le nucléaire, pour obtenir la levée de ces sanctions. Et c'est donc aujourd'hui toujours ce pari politique de Hassan Rouhani. Il souhaite toujours y parvenir un an après sa prise de fonction, c'était en août 2013. Mais on le voit, il est effectivement critiqué. Il y a eu des échanges de mots très très vifs avec ses opposants internes ces derniers jours.
Merci Nicolas, restez avec nous. Il reste encore une question, Akpadji. Vous aviez encore une dernière question au sujet de l'Iran.
Oui, une dernière question. Et quelle est la position du guide suprême vis-à-vis de cette négociation? Est-il si proche des ultra-conservateurs ou bien de la position des réformistes comme le président Rouhani?
Le guide suprême, Ali Khamenei, qui fait un peu la pluie au beau temps, hein, sur cette affaire, étant donné son énorme pouvoir en la matière, hein, Nicolas.
Absolument, hein, il est le principal dirigeant de la République islamique, et contrairement au président ou aux parlementaires, il n'est pas élu. On peut rappeler aussi qu'il a exprimé par décret religieux la position officielle de l'Iran, hein, à savoir que le pays ne veut pas se doter de l'arme atomique. Alors, il y a un an, il a clairement donné son feu vert à la démarche du président Rouhani. Celui-ci dispose d'un cadre, hein, défini par le guide suprême pour tenter de résoudre la question nucléaire, mais on sent bien et on observe qu'en cas d'échec, d'impasse ou de blocage, le guide suprême, oui, pourrait retirer son soutien à Hassan Rouhani. Et on peut ajouter à ce sujet qu'en toile de fond du bras de fer, ou plutôt de la négociation nucléaire, il y a un autre enjeu immense, hein, qui est celui du dégel de la relation entre l'Iran et les États-Unis. Alors, il y a eu des négociations indirectes, puis directes ces derniers mois. Il y a eu, on s'en souvient peut-être, le coup de fil historique entre les présidents Obama et Rouhani l'année dernière. Un rapprochement entre les deux pays serait historique, il aurait des conséquences immenses au Proche-Orient, et là aussi il ne peut s'agir que d'une décision du guide suprême, qui s'est montré dans des déclarations récentes beaucoup plus prudent sur une éventuelle normalisation ou un rapprochement avec les États-Unis, tout en disant que dans le domaine des pourparlers nucléaires, nous n'allons pas arrêter les négociations. C'est ce qu'a dit le guide suprême il y a encore quelques jours.
Voilà, Ali Ramenei qui s'exprimait. Merci beaucoup Nicolas Falaise du service Proche-Orient de RFI. On salue Akpadji qui nous appelait depuis le Bénin. Restez avec nous, on va marquer une courte pause et puis le journal et dans 10 minutes le débat, les systèmes universitaires, des mouvements de colère, des manifestations, des grèves qui sont régulières sur les campus étudiants. Il y a eu un mort jeudi dernier, notamment à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop. Les étudiants reprochent le manque de moyens. Quelle solution selon vous ? À tout de suite.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.